Cette prédication nous a été envoyée avec une vidéo et il nous demande de prévenir les gens sensibles, des choses qui pourraient heurter. On sait que l'Église persécutée, ce n'est pas de tout repos. Tout le monde connaît la célèbre fable de Jean de La Fontaine, le chêne et le roseau. L'arbre prétentieux est sûr de sa force, se moque du frêle roseau. La nature envers vous me semble bien injuste. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Le roseau explique qu'il plie mais ne rompt pas. Ce qui ne semble pas convaincre le chêne, évidemment. Puis vient la tempête violente, terrible, destructrice. Et elle vient aussi comme un jugement. Et l'arbre royal est déraciné, tandis que le roseau à résister. Les chrétiens persécutés passent par des tempêtes qui sont souvent terribles. Les vents forts et les pressions leur font parfois vouloir renoncer à leur foi. Les autorités, la police, les collègues, la famille, les voisins, etc. exercent des pressions quotidiennes et parfois violentes. Portes ouvertes distingue ces deux pressions en deux catégories différentes. Il y a l'oppression violente, donc la persécution au marteau, qu'ils appellent ça, les assassinats, les kidnappings, le mariage forcé, la destruction des biens, et la pression par discrimination, persécution étau, donc l'oppression, le rejet, le déni de droit, l'exclusion, les procès injustes, etc. Mais il y a aussi des situations encourageantes. Et voici quelques exemples qui nous donnent l'exemple de l'Iran, je vous lis. L'Iran est une république islamique. Il occupe la 8e place dans l'index mondial de persécution des chrétiens en 2021. Les chrétiens sont persécutés par le gouvernement qui les considère comme des agents de l'Occident. La vie ecclésiale est complètement muselée. Ce sont les chrétiens d'arrière-plan musulmans qui sont le plus persécutés. Ils se réunissent en secret et s'ils sont découverts, ils sont arrêtés et emprisonnés. Pourtant, l'Église iranienne est celle qui grandit le plus au monde. Quand j'ai vu cette phrase. L'Église iranienne est celle qui grandit le plus au monde. Selon les analystes de la persécution des chrétiens, l'Iran connaît actuellement un exode massif de l'islam vers le christianisme. Un responsable iranien confirme, et si je vous disais que les mosquées sont vides, c'est exactement ce qui se passe en Iran. L'intransigeance des ayatollahs pousse les musulmans dans les bras de Jésus et fortifie la foi des chrétiens qui n'ont pas d'autre choix que d'être des disciples. 800 000 chrétiens iraniens. En Inde, 10e place de l'index, les chrétiens sont victimes de nationalisme religieux exercé par le parti hindou radical au pouvoir. Ils sont agressés, injustement accusés de convertir de force les hindous et parfois assassinés. Et pourtant, là aussi, l'Église grandit. En dépit des menaces, le nombre de chrétiens ne cesse de croître, passant de 58 à 66 millions en quelques années seulement. Un expert qui connaît parfaitement le terrain déclare « À première vue, il semble que les extrémistes hindous soient en train de gagner. Mais nous devons regarder plus loin, et pas seulement en surface. Je vois l'Église prospérer au milieu de nombreuses menaces. Il y a tant de personnes qui cherchent le Seigneur et qui viennent à la foi. » Encourageant, encourageant, encourageant. Et encore un exemple, au Bangladesh, pays musulman, la persécution des chrétiens est partout. Même les enfants sont discriminés à l'école par leurs camarades de classe et parfois par les enseignants, sans oublier les groupes radicaux qui enlèvent des convertis pour dissuader par la terreur toute volonté de suivre Jésus. Pourtant, des personnes se tournent vers Jésus et l'Église augmente progressivement en nombre et en foi. 900 000 chrétiens au Bangladesh. Ces nouveaux chrétiens ressentent le besoin et la passion de partager à leur tour la bonne nouvelle du salut. Même des persécuteurs finissent par suivre Jésus-Christ. Ces personnes sont inarrêtables pour le royaume de Dieu, nous disent nos contacts sur place. Extraordinaire. L'Église persécutée, ce ne sont pas que des mauvaises nouvelles. Le royaume de Dieu avance avec souffrance, mais il avance. Et je vous invite à lire le texte de base pour la prédication, 2 Corinthiens 4. Ainsi donc, puisque par la volonté de Dieu nous avons ce ministère, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les actions honteuses qui se font en secret. Nous ne nous conduisons pas avec ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître clairement la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il l'est pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller l'éclat que projette l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, c'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons, et nous, nous déclarons vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le Dieu qui a ordonné que la lumière brille au sein des ténèbres a aussi fait briller sa lumière dans notre cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés, inquiets, mais non désespérés, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non anéantis. Nous portons toujours avec nous dans notre corps l'agonie du Seigneur Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifeste dans notre corps. En effet, nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit elle aussi révélée dans notre corps mortel. Ainsi, la mort est à l'œuvre en nous et la vie en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi que celui qui exprimait dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec lui dans sa présence. Oui, tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder la reconnaissance d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi, nous regardons non pas ce qui est visible, mais à ce qui est invisible. Car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Jusqu'ici la lecture. Dans ce texte que nous venons de lire, Paul nous parle de ces pressions que subissaient également les premiers chrétiens. Il est sans doute l'un des mieux placés pour en parler, lui qui était un des plus grands persécuteurs des chrétiens. Il a dû subir, lui, à son tour, la persécution jusqu'à la mort. Voici ce qui a permis à Paul, hier, et aux chrétiens persécutés d'aujourd'hui, de tenir bon malgré toutes les pressions exercées contre eux. Et découvrons comment ces enseignements peuvent impacter notre vie. Pourquoi sommes-nous pressés de toutes parts? Primo, parce que nous détenons un trésor. Paul considérait que l'évangile de la gloire de Christ est un trésor, bien plus important que tout ce qu'il avait pu connaître auparavant. Je considère même tout comme une perte à cause du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, je me suis laissé dépouiller de tout et je considère tout cela comme une ordure, afin de gagner Jésus-Christ, dit-il en Philippiens 3:8. Connaître Jésus, c'est le plus beau des trésors. En sommes-nous convaincus, comme Paul? Selon la définition du dictionnaire, un trésor est un ensemble de choses de valeur accumulées et soigneusement cachées. Eh bien, c'est tout l'inverse avec Dieu. Le trésor, il faut en parler, il faut le montrer, il faut le sortir. Mais comme vous savez un peu, nous avons un problème. En règle générale, un trésor attise la convoitise, la curiosité, la envie, l'envie de le voir, l'envie de le prendre. Mais nous savons, nous, ce trésor-là n'attire pas systématiquement les foules. On peut même dire que dans certains cas ou dans certains pays, comme dans la plupart des pays persécutés, on n'en veut pas de ce trésor. Il attire la haine. Et je vous propose de visionner cette vidéo avec le témoignage de cette dame en Inde.
Thank you. Une nuit, des villageois sont venus rôder autour de notre maison, des cordes à la main. Vers minuit, ils ont frappé à notre porte. J'ai ouvert et ils m'ont demandé « Où est ton mari ?» J'ai répondu que mon mari dormait. Leur visage était caché par des foulards. Ils sont rentrés dans ma maison et ont emmené mon mari avec eux. J'ai compris qu'ils voulaient se venger sur mon mari à cause de la solidité de ma foi. J'ai essayé de les arrêter, mais ils m'ont poussé à l'intérieur de ma maison et ils ont fermé la porte. Mon mari les a suppliés en disant « S'il vous plaît, laissez-moi, j'ai de jeunes enfants », mais ils ne l'ont pas écouté. Pendant 6 jours, ils ne leur ont donné ni eau ni nourriture. Ils m'ont bandé les yeux et m'ont emmené de village à village. Mon mari avait perdu la mémoire à cause des tortures qu'on lui faisait subir. Le jour où ils ont décidé d'exécuter mon mari, ce jour-là, mon mari n'était plus capable de me reconnaître. Et ils ne m'ont pas permis de rapprocher de lui. Ils m'ont fait s'allonger et ont maintenu un bambou sur son cou. Et 2 personnes se tenaient debout sur le bambou des 2 côtés. Après quelques instants, ils ont dit « Viens récupérer le corps de ton mari. » Ce jour-là, il y avait aussi un autre homme qui voulait exécuter. Ils ont relâché l'autre homme parce qu'il n'était pas croyant. Mais mon mari a été tué simplement parce qu'il était croyant. Je me tenais à une certaine distance. Je priais et je disais à Dieu « Seigneur, que ta volonté soit faite. » La parole de Dieu m'aide à faire face à toutes sortes de problèmes. Il est écrit « Ne t'inquiète de rien, car Dieu est là pour combler tous tes besoins. Quand je tombe malade, Dieu me guérit et il répond à tous mes besoins. » Les partenaires de Portes Ouvertes nous ont aidés continuellement. Non seulement ils se sont occupés de la nourriture, mais ils nous ont aussi fourni des couvertures et des vêtements. S'il vous plaît, priez pour les personnes qui ont livré mon mari au Naxalite, afin qu'elles puissent obtenir le salut, que Dieu change leur cœur et qu'ils puissent eux aussi accepter Jésus-Christ dans leur vie. Je prie pour le salut de mon village et je crois que mon village obtiendra le salut. J'ai passé beaucoup de temps en prière pendant le confinement lié à la pandémie. De nombreux villageois sont venus chez moi pour prier pour leur maladie et Dieu les a tous guéris. Maintenant, beaucoup de nouvelles personnes de mon village ont également commencé à croire en Jésus. Environ 10 nouvelles familles ont commencé à croire au Seigneur Jésus pendant le confinement. J'ai encore été persécutée par certaines personnes de mon village, mais maintenant, je n'ai plus peur. Dieu est avec moi. Priez pour nos besoins et priez pour moi, afin que Dieu m'utilise pour son royaume et pour sa gloire dans les années à venir.
Quand j'ai appris ce que Kirti avait vécu, toutes les douleurs, les souffrances, les luttes, l'exclusion. Face à tant de deuil et de rejet, je pense que n'importe qui pourrait craquer à ce stade. Pourtant, la foi de Kirti n'a pas faibli. J'ai rencontré une personne très forte avec un témoignage fort et une forte conviction personnelle d'être aimée par Dieu.
Alors, avec ce trésor que nous avons, cette grâce que nous avons d'être en Belgique, au verset 13, Paul dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » De l'abondance de son cœur, sa bouche parlait. Nous devons parler, nous devons partager ce trésor. C'est un principe général, on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas reçu soi-même. Nous avons reçu ce trésor. S'il y a de la lumière dans nos cœurs, il y en aura autour de nous. Parfois, nous pouvons avoir peur, c'est sûr. Et peut-être enterrer le trésor de l'Évangile, mais rappelons-nous toujours que Jésus nous a donné cette mission de faire briller la lumière de l'Évangile devant les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père. Matthieu 5, 14, 16. Pourquoi nous sommes pressés de toutes parts ? Aussi parce que simplement, nous sommes fragiles. Et à l'ère des super-héros, bon nombre de chrétiens aimeraient tant, on aimerait tant avoir de super-pouvoirs pour dire « Ah, on est fort !» On proclame l'Évangile. C'est d'ailleurs parfois cette théologie qu'on propose. « Vous êtes fort, vous êtes des vainqueurs, allez-y !» Ce n'est pas toujours évident. Et la vérité est parfois tout autre. On n'est pas des super-héros. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et nous à nous. J'imagine qu'on soit des super-héros. Regardez, c'est moi qui prêche l'Évangile. Non, nous sommes des vases de terre, et à Dieu toute la gloire. Ce trésor, nous le portons, dans des vases fragiles, des vases faits d'argile. Un contraste apparaît entre le trésor et le vase de terre qu'il contient. L'homme, créature de Dieu, mais formé de la terre, poussière, du sol, est comparé à un vase. Le vase est fragile, l'homme extérieur dépérit, la tente est destructible. Le messager a peu de valeur, mais il est porteur d'un message de grande valeur. Quel contraste! Quel Dieu exceptionnel nous avons, il nous a donné la possibilité de prêcher l'Évangile. Remarquons que Dieu n'a pas choisi des anges qui auraient pu, plus facilement que nous, proclamer l'Évangile. Donc, dans sa sagesse, Dieu prend des hommes et des femmes qui peuvent rendre témoignage de la grâce qu'ils ont et de la grâce dont ils ont fait l'objet. Et je vous partage un témoignage d'un pasteur en Inde, Madhira Kodderedi était gravement malade et condamné à mourir quand Dieu l'a miraculeusement guéri et lui a annoncé qu'il allait lui confier une mission. Il savait à peine lire et n'avait jamais étudié la théologie. Mais un jour, un pasteur est arrivé avec une bicyclette, aménagée avec des haut-parleurs et une Bible audio amplifiée qu'il a remise à Kodderedi. Il est devenu l'évangéliste à bicyclette. Il allumait sa Bible amplifiée, il diffusait un chant, puis un verset biblique, et annonçait et circulait dans les villages annonçant l'Évangile. Il a fait cela pendant 7 ans, jusqu'au jour où on l'a arrêté, en lui disant qu'il ne devait plus revenir. Et une nuit, alors qu'il dormait, quelqu'un est venu avec une hache pour le tuer. Il a reçu plusieurs coups de hache et s'est retrouvé à l'hôpital, presque mort. Le lendemain, un de nos partenaires est allé lui rendre visite et il a demandé à son épouse « Est-ce que tu as peur de perdre ton mari ?» Elle lui a répondu « Pour moi, il devrait déjà être mort depuis 7 ans. Celui qui lui a redonné la vie va s'occuper de lui. Celui qui lui a redonné la vie va s'occuper de lui. » Aujourd'hui, Kodderedi a repris ses tournées à vélo avec encore plus d'énergie. C'est dur, ce genre de témoignage. J'imagine. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ? Kirti et Kodderedi sont deux vases de terre fragiles, sans valeur aux yeux du monde, mais tellement précieux aux yeux de Dieu. Parfois aussi, nous pouvons penser que nous n'avons, nous, aucune valeur aux yeux de nos voisins, de notre famille, de nos collègues, mais Dieu nous choisit pour répandre sa lumière. Et c'est à dessein qu'il place sa gloire dans des vases sans gloire. Ainsi, la puissance incomparable que produit l'Évangile est celle de Dieu et non la nôtre. Plus la faiblesse du témoin est manifeste, plus la puissance de Dieu est éclatante. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Colossiens 1, 27. Deuxième partie, pourquoi ne sommes-nous pas écrasés ? On pourrait l'être. D'abord parce que nous sommes des instruments entre les mains de Dieu. Est-il nécessaire de rappeler que tout vase dépend du potier qui le tient dans ses mains ? Paul, en tant que serviteur de Dieu, connaissait la tribulation, la persécution et l'abattement. Pourtant, il n'avait pas de désespoir en lui, malgré ce qu'il exprime plus haut, car il a un soutien divin. Il a vu la mort de près. Et dans le texte que nous avons lu, il met en parallèle d'une manière saisissante les épreuves et les souffrances. Voyez un petit résumé ici. Nous sommes pressés de toutes parts, mais non écrasés. Inquiets, mais non désespérés. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non anéantis. On peut être abattu, on peut être inquiet, on peut être persécuté. Mais qui a le dernier mot ? C'est notre Dieu. Nous pouvons être pressés de toutes parts en tant que chrétiens qui témoignent de l'amour de Dieu autour de nous, mais nous ne serons pas écrasés. Car Jésus-Christ a pris à la croix ce qui pouvait vraiment nous anéantir et nous écraser, le péché. Mais lui, il a été blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris, Ésaïe 53. Jésus a été écrasé, brisé par le poids de nos péchés, et ça, à notre place. Je vous partage un autre témoignage. Ava et Marduk sont des chrétiens iraniens fervents. Ils ont beaucoup souffert à cause de leur foi, notamment suite à l'emprisonnement de Marduk. Ils ont tout perdu, leur maison, leurs biens et leurs revenus, sans compter qu'ils sont sous surveillance. Mais malgré cette persécution, ils ont grandi. Ava raconte, « Quand mon mari était en prison, j'ai vécu beaucoup d'expériences intimes et très fortes avec Dieu. Et j'en ai retenu de nombreuses leçons. J'ai appris que Dieu était là avec moi dans le feu. » Ava réalise qu'elle avait lu et relu la Bible, qu'elle avait elle-même enseignée aux autres, mais que sa connaissance était en grande partie théorique. C'est grâce à la persécution et celle de son mari qu'elle a connu la réalité de Dieu et ses promesses. « Je sais que nous sommes dans sa main et que personne ne peut nous arracher. » Depuis l'arrestation de son mari, Ava est devenue comme une enfant, sans défense, mais dépendante de la puissance de l'amour de Dieu. Elle apprend de plus en plus à lui faire confiance et à lui obéir. « Je peux dire, et je suis davantage prête et disposée à faire la volonté de Dieu. » Pourquoi nous ne sommes pas écrasés, deuxièmement ? Parce que nous portons notre attention sur des réalités éternelles. Si nous sommes fragiles en tant que chrétiens, nous croyons que Christ est ressuscité le premier, nous aussi nous pouvons et nous allons ressusciter. Le verset 4 de notre passage nous montre l'issue glorieuse de notre chemin. Nous savons en effet que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi par Jésus et nous fera paraître avec vous dans sa présence. Il y a d'abord la foi, croire, puis le témoignage, parler, d'où la persécution du témoin jusqu'à la mort, mais notre résurrection est aussi certaine que celle du Christ. Quelle promesse extraordinaire. Paul peut vouloir dire « J'ai cru aux ressources divines, c'est pourquoi j'ai délivré ce message sans réserve, quoi qu'il pût m'en coûter. » Dieu est là. Et puis il y a la gloire future, car nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Au-delà encore. Non pas seulement des promesses, mais ça produit au-delà. Cette gloire est infinie en quantité, en qualité, en durée, surabondante, un poids impressionnant, insurpassable, éternel. Paul est extraordinaire dans ses paroles, mais il connaît. En conclusion, il dira au verset 16, « Ne perdons pas courage. » Notre trésor, c'est l'évangile de la gloire. Il est contenu dans nos vies fragiles, peut-être. Les épreuves peuvent réussir à fissurer ce vase, mais c'est justement au travers de ces fissures que la lumière de la gloire de Christ pourra atteindre ceux qui vivent dans les ténèbres. J'ai bien aimé cette image du vase fêlé et qui laisse passer la lumière. Quand on le lit comme ça, ça ne frappe pas aux yeux, mais quand on s'imagine ce vase brisé avec une fêlure et la lumière qui passe à travers pour toucher les autres. Nous sommes appelés à briller dans nos faiblesses humaines par la puissance de Dieu. Nous sommes parfois accablés. Mais Paul nous encourage à lever nos têtes pour fixer nos regards sur la récompense finale, la résurrection et la gloire à venir. Paul se considérait comme l'esclave de tous, rien. Il se constituait esclave volontaire pour l'amour de Jésus, même s'il était livré à la mort, c'était encore pour l'amour de Jésus. Je ne considère pas ma vie comme précieuse pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le ministère que le Seigneur Jésus m'a confié, annoncer la bonne nouvelle, la grâce de Dieu. Acte 20, 24. Quelle simplicité, quelle beauté dans ce langage, mais aussi quelle vérité. Et enfin, que son exemple et celui de nos frères et sœurs persécutés nous incitent, nous, à plus de disponibilité et à plus de consécration dans le service que le Seigneur veut nous confier. Amen.